Esprit Landscape, fiction, audio. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur le podcast d'Esprit Landscape Fiction Audio. Aujourd'hui, c'est un podcast particulier. On fête nos 1 an d'existence, 1 an de recherche, 1 an avec des litres de café, 1 an de rencontres, mais c'est aussi une évolution très rapide pour un podcast d'histoire. Pour ce podcast si spécial, on va faire un peu notre journée de la femme. J'ai cherché un thème bien particulier, bien marquant pour fêter ces 1 an. Donc je me suis dit, pourquoi pas les femmes pendant le marronnage. Alors, si je vous dis Simon Def, Mafat, Dimitil, Anchin, les noms de ces marrons légendaires sont gravés dans la mémoire collective des Réunionnais. Ils symbolisent la quête de la liberté et la résistance de l'esclavage. Cependant, les femmes qui les accompagnaient ont longtemps été oubliées. Leurs noms comme Eva, Ra'ariane, Marianne, Sarlav et Simon Galov sont aujourd'hui enfin reconnues. Enfin, presque. Les femmes marronnes de la Réunion. Ces femmes qui ont fui l'esclavage ont joué un rôle essentiel dans le marronnage. Elles ont participé à la vie sur les camps, à la transmission des traditions, des savoirs, des croyances, des rites et pratiques culturelles et religieuses.
Au passage, le culte des anciens était la religion des esclaves. Une grande majorité des esclaves venaient d'Afrique. Ils priaient leurs ancêtres et remerciaient leurs ancêtres pour tout ce qu'ils ont. Et cette coutume est restée avec les esclaves à La Réunion.
Elles ont également contribué au métissage de l'île à la découverte des cirques. Les marrons ont bien souvent été décrits à tort et à travers dans les discours coloniaux, comme des personnes perpétuellement en fuite dans les endroits les plus retirés de l'île. L'histoire montre qu'au fil des temps, ils s'enracinaient dans l'île et créaient des véritables réseaux sur le territoire. Ils organisaient des camps et assuraient leur protection contre les attaques des détachements. Ils font régulièrement des descentes dans les plantations, sur la côte, pour aller récupérer des femmes restées en esclavage et pour se ravitailler en outils et en vivres.
Pour ça, justement à ce niveau-là, il est difficile aujourd'hui de distinguer la légende et la réalité. Petit rappel, juste après le 20 décembre 1848, mandaté par la Deuxième République, Sarda Garriga proclame officiellement l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Ce qui s'ensuit juste après, dans l'année qui a suivi cette date, un grand incendie s'est déclaré dans les administrations à Saint-Denis. Volontaire, accident, on ne sait pas encore. Résultat, toutes les archives d'esclaves ont disparu.
Ces femmes marronnes ont existé, puisque certains textes littéraires, récits et documents d'archives nous rapportent leur existence aux côtés de leurs compagnons et retracent la vie de certains couples de marrons légendaires, comme par exemple celui de Eva et Anchin. On ne retrouve pas de traces de ce couple dans les documents d'archives, comme par hasard. Pourtant, le python Anchin, dans les siècles de Salazie, porte le nom du marron qui a vécu. L'histoire de ce couple est peut-être, et je dis bien peut-être, un mythe fondateur du marronnage, ce qui a donné naissance à une forme de résistance à l'esclavage et qui a permis à de nombreux esclaves de s'échapper de leur maître et de vivre en liberté dans les montagnes de l'île. Cependant, dans la mémoire collective, Anchin semble être oublié, très loin derrière l'emblématique marron Mafat, à qui l'histoire n'a malheureusement pas attribué de compagne.
Et d'après Léon-Zi, Anchin était le premier marron de l'île. Il aurait vécu en paix et en autarcie sur son piton. Il est considéré comme le premier marron qui aurait eu avec Eva 8 filles.
Notre second couple, Ra'ariane et Simon Def. Simon Def, marron d'origine malgache, aurait fui son maître pour vivre libre dans l'intérieur de l'île, dans les cirques. Il s'est installé à Mafat, où il a fondé une communauté de marrons. Marianne, sa compagne, était une femme courageuse et déterminée, et elle l'a même soutenue dans son combat contre l'esclavage. Un autre couple, qui pareil, très peu d'archives sur eux, mais la mémoire témoigne. Simangalov, selon le récit de Léal, c'était une femme forte et courageuse, une leader charismatique et une experte en combat. Elle était la femme du chef Matouté et vivait dans une caverne profonde dans le cirque de Silaos.
Petit aparté en plus, Simangalov était la 11e chef de la bande des Marrons. Et toujours par rapport à certains récits, c'est soit on disait Simangalov ou Simangavol.
Un autre couple, Sarlav et La Verdure. Et ce couple est bien particulier. Pour la simple et unique raison, c'est que c'était le roi La Verdure et la reine Sarlav. J'ai bien dit le roi et la reine. Ce qui veut dire que bien qu'en tant que Marron, officiellement ou officieusement, la Réunion a eu un roi et une reine, qui étaient mariés et qui étaient redoutés des colonialistes. Sarlav aurait été tué par le chasseur d'esclaves, François Mussard, en 1752, et leur histoire est restée dans la mémoire collective comme un symbole de la résistance des esclaves marrons. Puis, il y a une autre femme, très peu d'archives, il y a pratiquement très peu de choses sur cette femme, Adzia. Je ne sais pas si on peut considérer cette femme comme une marronne, au sens esclave fugitif. D'après mes recherches, elle était accusée de recel avec les marrons, et les textes ne précisent pas si elle est effectivement esclave. Il est donc possible qu'elle soit libre ou qu'elle ait été affranchie. Mais d'après mes recherches sur Adzir sur internet, dans le livre Adzir ou le prestige de la nuit de Firmin Lakhpatia, cet auteur s'inspire de rapports de police rédigés en 1846 pour raconter l'histoire d'une femme noire qui vit dans la société coloniale réunionnaise. C'est le seul truc que j'ai pu trouver sur Adzir. Lorsque les camps des marrons sont attaqués par les chasseurs de noirs, les femmes sont généralement capturées, car elles constituent une source d'informations importante pour les colons sur la composition des camps. Les hommes, quant à eux, sont souvent tués, torturés. Et pour preuve qu'on l'a bien trouvé pour toucher la prime, les chasseurs leur coupaient la tête. Les mains et les têtes étaient ensuite attachées au lieu accoutumé, en guise d'avertissement et de dissuasion pour les esclaves qui voulaient s'enfuir. L'histoire a fait du marronnage une affaire essentiellement masculine. Cette vision est due à plusieurs facteurs, notamment la domination masculine dans la société coloniale, les difficultés pour les femmes de fuir les plantations et la volonté des marrons de protéger leur famille. Les figures légendaires féminines locales de Madame des Bassins et de Grand Mercal, ainsi que certaines guérisseuses ou tisaneurs, comme par exemple Madame Visnelda, ont hérité de caractéristiques attribuées aux femmes marronnes. Les guérisseuses, grâce à la connaissance qu'elles possédaient des plantes locales, qui apaisaient les maladies du corps, l'esprit, étaient transmises de mère à fille. Conclusion, esclaves, maîtres ou marrons, ces personnages de l'histoire se mêlent et se confondent dans les mythes. Le marronnage est certes une quête pour la liberté, mais il est aussi et devant tout une lutte pour la dignité et l'amour. Quant à moi, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à mettre une étoile au podcast quand cela est possible, de partager, de vous abonner, de liker et de commenter sur les réseaux sociaux qui s'ensuivent. Mais quoi que vous en pensez, dites-vous bien que l'horreur est humaine.